Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 15 morts, plus de 40 blessés. Bilan de cet attentat terroriste et antisémite hier sur une plage prisée de Sydney en Australie. Un Français figure parmi les victimes originaires du Bourgeux en banlieue parisienne. Ses proches sont sous le choc. La ministre de l'Agriculture attendue dans le Sud-Ouest où les blocages se poursuivent ce matin contre la gestion du gouvernement dans la crise de la dermatose nodulaire. Et Mason Greenwood, sauveur d'un OM à la peine hier soir en Ligue 1, tombeur 1-0 de Monaco.
L'émoi très vif au lendemain de cette fusillade qui a fait donc 15 morts en Australie.
Et parmi eux, un Français, Dan El-Kayam, 27 ans, installé à Sydney depuis un an. Cet ingénieur de confession juive était originaire du Bourget, en Seine-Saint-Denis. Un homme à mélicoté que ses proches décrivent comme un passionné.
Des milliers de kilomètres les séparaient ces dernières années, mais Michael, ami d'enfance de Dan, suivait de près ses aventures en Asie, en Australie, lorsqu'il a appris son décès.
Moi, pour moi, j'étais persuadé que c'était pas vrai. Je me disais, c'est pas possible, ça peut pas lui arriver à lui.
Il relie en boucle les messages de Dan, des plus récents il y a quelques semaines aux plus anciens. De nombreux souvenirs heureux refont surface.
Toutes les fois où il est venu chez moi, toutes les fois où je l'ai appelé, on s'est changé des tenues de foot, il m'avait prêté ses crampons.
Au centre de leur amitié, la passion du foot qu'ils partageaient dans le club du Bourget, commune de Seine-Saint-Denis, dont ils sont tous les deux originaires.
Moi, surtout qu'à une époque, j'étais gardien de but, il me charriait, quoi. Ah, là, je t'en ai mis un pied droit, bah, je vais t'en mettre un pied gauche. Allez, réveille-toi. Il savait autant rigoler sur lui que sur les autres. Moi, c'est ça vraiment qui m'a marqué avec lui.
C'était un pilier de l'équipe, souligne son coach Eric. Dan, il l'a connu en 2019. Il avait à peine 20 ans.
C'était déjà un joueur d'une classe incroyable, brillant sur le terrain et toujours respectueux avec ses partenaires, toujours aussi très ambitieux. Il aimait gagner. Il a été indispensable.
Une disparition brutale.
C'est un vrai drame, il va terriblement nous manquer.
Le club prévoit de lui rendre prochainement hommage.
Et donc 15 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de cet attentat qualifié de terroriste et d'antisémite par les autorités locales. C'est la communauté juive qui était visée, rassemblée pour la fête de Hanouka sur cette plage prisée de Sydney. Et ce matin, l'enquête avance, on en sait plus, Rachel Sadodine, sur le profil des deux assaillants, deux hommes, un père et son fils.
Âgé de 50 ans, le père a été abattu par les policiers lors de son interpellation, blessé, le fils de 24 ans, est lui actuellement hospitalisé dans un état critique, placé sous surveillance policière. Selon la chaîne australienne ABC, il avait fait l'objet d'une enquête de renseignement australien en 2019, soupçonné d'être étroitement lié à un membre du groupe État islamique. Toujours d'après la télévision publique, père et fils avaient prêté allégeance à l'organisation djihadiste. Des drapeaux de l'État islamique ont été retrouvés dans leur voiture avec aussi deux bombes artisanales. Ces informations ne sont pour le moment pas confirmées par la police australienne. Elle indique cependant que l'attaque a été commise avec les fusils personnels du père, détenteur d'une licence d'armes depuis 10 ans.
Un drapeau en berne, journée de deuil national ce lundi en Australie. Et dans ce contexte, la France annonce, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de relever le niveau de vigilance et de sécurité autour des lieux de culte.
Autour des lieux de culte juifs, mais aussi à l'approche des fêtes de Noël chrétiennes. L'antisémitisme partout, les juifs visés jusqu'à l'autre bout de la planète. Comment est-ce que vous vivez cet épisode, ce dernier épisode d'antisémitisme et de terrorisme? Vous nous appelez au 32-16.
Il est 7h04, vous écoutez RMC. La ministre de l'Agriculture attendue ce matin dans le Sud-Ouest, Annie Genevard, a rappelé sa volonté d'étendre la vaccination des troupeaux de bovins. Seule solution, dit-elle, permettant de lutter contre la propagation de l'épidémie de dermatose nodulaire, attendu de pied ferme par des agriculteurs toujours mobilisés ce matin sur différents axes dans le Sud-Ouest. C'est notamment le cas à Carbonne, sur l'A64 au sud de Toulouse, sur place en direct ce matin. Notre envoyé spécial, Cassandre Aubreau, au cœur de la mobilisation, Cassandre.
Oui, les agriculteurs sur ce blocage sont en train de se réveiller ici. Ils viennent juste d'allumer les spots. On aperçoit les premières tasses de café fumant. Ce matin, il y a de nouveaux chauffages extérieurs à gaz, de quoi faire brûler du bois dans des fûts en métal. Signe que le blocage est bien parti pour durer ici à Carbonne. Des klaxons d'automobilistes se font entendre au loin. Leur façon d'apporter leur soutien à ces agriculteurs qui ont peu d'espoir que la visite de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, aujourd'hui débouche sur de nouvelles annonces. Les syndicats comme la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne protestent contre le principe de l'abattage systématique des troupeaux. Ils réclament l'abattage des animaux malades seulement et une large vaccination des 16 millions de bovins français contre la dermatose nodulaire.
Cassandre Brou en direct de Carbone pour RMC. Notez que la France a demandé à l'Europe de reporter la signature de l'accord avec les pays du Mercosur prévu cette semaine.
RMC 7h05, le marathon du budget se poursuit.
C'est aujourd'hui que le Sénat doit voter le projet de loi finance avant un retour du texte à l'Assemblée nationale dans la semaine et toujours dans la perspective d'un vote avant le 31 décembre. Si le gouvernement se dit convaincu d'obtenir un budget pour 2026, beaucoup en doutent. Les tensions demeurent. Et ce matin, dans les colonnes du Parisien, Elisabeth Borne plaide un passage en force. Habitué de la manœuvre, à 23 reprises, l'ex-première ministre appelle Sébastien Lecornu à faire machine arrière. Cyprien Pézeri, il est utilisé le 49-3.
Pour la première fois, une macroniste de premier plan rejoint François Hollande, Bruno Retailleau, Gérard Larcher et appelle au 49-3 pour adopter le budget. Le gouvernement peut engager sa responsabilité, suggère Elisabeth Borne, qui y voit une façon moins engageante pour les oppositions de permettre l'adoption, ce qui évite ainsi aux partis comme le PS d'apporter formellement leur soutien. Appeler au 49-3, c'est dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, reconnaît un chef socialiste. Ces dernières heures, Olivier Faure laissait même entendre que la censure ne serait pas automatique si un accord en amont un 49-3 a été trouvé, mais le gouvernement jure que sa position est inchangée. Pas de passage en force, du moins pour l'instant. En octobre, Elisabeth Borne était la première de son camp à appeler à la suspension de la réforme des retraites, option finalement retenue par Sébastien Lecornu.
Les portes du Louvre vont-elles rester fermées ce matin? C'est à 9h que les salariés du musée doivent se réunir pour se prononcer sur l'appel à la grève reconductible lancée par les syndicats contre les conditions de travail dégradées et la détérioration des conditions d'accueil du public. Notez également le retour de l'extrême droite au Chili plus de 20 ans après la chute du régime de Pinochet. José Antonio Casta a été élu président de la République avec plus de 58% des suffrages.
RMC 7h07, Lens passera les fêtes au chaud en tête de la Ligue 1.
Tombeur de Nice, 2-0. Les Sang et Or ont 2 points d'avance sur le PSG ce matin, suivi par Marseille qui a arraché sa victoire hier soir face à Monaco. 1-0 en clôture de la 16e journée. Marseille sauve sa place sur le podium grâce à un but de Greenwood au terme d'un match. Encore une fois, brouillon, Florent Germain.
Oui, l'OM a souffert mais n'a rien lâché. Comme à Bruxelles mardi dernier en Ligue des Champions, 2 buts refusés à son adversaire pour hors-jeu, des parades en pagaille du gardien Geronimo Rulli et un Mason Greenwood en sauveur pour arracher la victoire au grand soulagement des supporters marseillais.
Eh ben, on finit l'année en beauté sur une victoire. Donc voilà, encore une fois, merci à Greenwood, merci Rulli. Deux hommes de la première partie de saison.
C'était assez mitigé quand même. On a eu un match plutôt compliqué. Après, c'est pas le meilleur qu'on ait fait, c'est pas le pire.
Disons que bon, on aurait bien aimé mettre un peu le feu avec un match du niveau que l'on attend de cette équipe-là. Voilà. Après, bon, c'est sûr, on est heureux, on a gagné, c'est Monaco.
L'OM reste donc sur le podium de Ligue 1. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, peut faire le bilan de la mi-décembre sereinement.
Avant de penser à Noël, la question sera de savoir si je suis vraiment satisfait. Cette victoire contre Monaco montre qu'on a du caractère et de l'orgueil. On est dans le coup, mais je ne peux pas être content à 100%, car on est à 5 points du leader et on a perdu trop de points de manière stupide.
Avant les fêtes de Noël, l'OM devra faire le métier également en Coupe de France. Ce sera dimanche à Bourg-en-Bresse.
À retenir également les victoires de Lille et de Lyon, 4e et 5e du classement ce matin.
C'était le journal de Thibaut Texer.